session de philosophie sur la personne par le père Philippe le 11 juillet 1989 à Saint-Jodard.
Je vais continuer ce que j'avais commencé hier en espérant que ce ne soit pas trop dur. Encore un petit effort difficile. Après, je crois que ce sera plus facile. Mais je crois qu'il faut faire cet effort. Il faut l'avoir au moins entendu une fois dans sa vie. Donc, c'est important, un moment historique, de comprendre comment le théologien croyant comme saint Thomas, qui est un saint, intelligent comme lui, ayant compris de son temps la nécessité de revenir à Aristote. C'est pour ça que quelqu'un comme le père Chenu aime de dire que saint Thomas est révolutionnaire. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, de fait, il a rompu avec une certaine tradition néo-platonicienne, Avicenne. Il est revenu à Aristote. Et la Sorbonne a voulu être plus catholique que saint Thomas. Et la Sorbonne de ce temps a condamné saint Thomas. Pas l'Église, hein. L'Église n'a jamais condamné saint Thomas. Mais la Sorbonne de Paris. C'est très très curieux. C'est une chose historique très intéressante, ça. Parce que saint Thomas revenait vers un païen. C'est, je crois, très intéressant pour comprendre une optique de saint Thomas. Avicenne était musulman, islam, croyant en la création. Donc, il n'était pas un païen, adorant le Dieu créateur. Un homme très, très intelligent, Avicenne, qui a lu 50 fois, ce qui montre son intelligence, le livre Zeta de la métaphysique d'Aristote sur la substance. Il le dit. Je l'ai lu 50 fois pour comprendre. Donc, il était bien aristotélicien, mais en même temps, assez néoplatonicien. Donc, petite synthèse entre les deux. Très intéressant, Avicenne. J'avais à Fribourg un étudiant qui habitait la Syrie. Il ne fallait surtout pas lui dire qu'il était syrien. Il habitait la Syrie. Il savait parfaitement l'arabe. Il a fait une thèse sur l'Avicenne arabe. Ce qui m'a beaucoup intéressé. Là, l'étudiant en savait beaucoup plus long que son maître, parce que moi, je ne savais pas l'arabe. Mais je le poussais là pour bien comprendre Avicenne, arabe, a écrit du reste, quantité de livres. C'était considéré comme le très grand génie de son époque. Et il montre du reste que l'Avicenne arabe est peut-être moins platonicien, néo-platonicien, et plus aristotélicien. Mais ça, ça fait partie de petites distinctions historiques intéressantes pour ceux qui s'intéressent à saint Thomas. Mais saint Thomas n'a jamais lu l'Avicenne arabe. Il n'a lu que l'Avicenne latin, ce que d'Avicenne était traduit en latin. Saint Thomas a eu le souci de revenir à Aristote. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la vérité. Saint Thomas ne s'est jamais posé la question. L'un est croyant dans le mystère de la création. L'autre est païen. Opte-t-on pour le croyant? Non. Si Aristote va plus loin dans la recherche de la vérité que Avicenne, saint Thomas n'hésite pas de quitter Avicenne pour venir à Aristote. Or, Aristote, la métaphysique d'Aristote n'était pas traduite en latin, elle était en grec. Saint Thomas a demandé qu'on traduise Aristote en latin, la métaphysique, pour lui. Parce qu'il ne connaissait pas assez le grec pour prendre directement Aristote en grec. Vous voyez, ça fait comprendre le souci de vérité de saint Thomas, d'aller jusqu'au bout. Alors ça, on ne l'a pas compris du tout. Alors à ce moment-là, on a condamné certaines thèses de saint Thomas, sans nommer que c'est saint Thomas, mais tout le monde le savait. Sans nommer que c'était le frère Thomas. Mais ça a eu une immense conséquence. Parce que ceux qui ont suivi saint Thomas ne pouvaient pas suivre saint Thomas entièrement. Et c'est ce qui explique que, immédiatement après saint Thomas, Henri de Gand, qui était de Gand, puisqu'il s'appelle Henri de Gand, est revenu à Avicenne. De toute façon, très nette et presque en opposition vis-à-vis de frère Thomas. Ce qui fait que, à partir de là, certains ont hésité beaucoup de suivre saint Thomas. Et il y a eu comme une espèce de creux. On est revenu à saint Thomas qu'un peu plus tard. On avait peur de la Sorbonne. On avait peur des autorités qui avaient condamné certaines thèses de Thomas d'Aquin. Alors, saint Thomas revient à Aristote. Pourquoi? Pour trouver une philosophie et une métaphysique beaucoup plus précise et beaucoup plus réaliste. Parce que pour Avicenne, la métaphysique commence par des idées presque innées. Comme pour Plotin, comme dans le courant néoplatonicien. Alors que pour Aristote, c'est l'expérience de la réalité qui progressivement permet à notre intelligence de se développer. Autrement dit, le contact avec la réalité pour Aristote est beaucoup plus fortement affirmé que chez Avicenne. Pour Avicenne, il y a deux sources de vérité, comme pour Plotin. L'expérience et nos idées, et des idées innées. Or, Aristote n'a jamais accepté les idées innées, et saint Thomas non plus. Alors, saint Thomas a étudié Aristote pour la Sorbonne, du reste, pour certains de la Sorbonne. Il a commenté Aristote jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort commentant Aristote. Ce qui montre l'amour de la vérité qu'il avait. Il était croyant, mais pour lui, être croyant réclame d'être intelligent. Ce qui n'est pas toujours affirmé de cette manière-là. Quelquefois, on a peur. Vous savez, je suis croyant et faut garder ma foi. Ou alors ne poussons pas trop l'intelligence, parce que ce sera dangereux. Il y aura des conflits. Pour saint Thomas, il ne peut pas y avoir de conflit. La recherche de l'intelligence, de notre intelligence, peut aller le plus loin possible. Il n'y aura jamais de conflit entre la foi et l'intelligence. Pourquoi? Parce que tous les deux dépendent du même Dieu. Dieu est celui Dieu notre Père, est celui qui est à l'origine de notre intelligence, de notre âme spirituelle, qui est l'intelligence, et Dieu Père par Jésus. Et celui qui nous donne la foi. Et Jésus ne fait qu'un avec le Père. Il ne fait qu'un avec Dieu. Donc pour saint Thomas, c'est très important ça. Vous voyez, surtout dans notre monde d'aujourd'hui. Il faut pouvoir affirmer, mais avec une conviction qu'on a expérimenté, hein, que jamais une donnée vraiment scientifique ne sera en contradiction avec la foi. Certaines applications de la science, certaines applications pourront être en contradiction avec l'enseignement de l'Église qui montre les exigences de la foi sur l'homme. L'Église voudra toujours rappeler la dignité de l'homme, de la personne humaine. Et c'est pour ça que l'Église dira à certains moments, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'homme comme un cobaye. Et là, on dira, l'Église est contre la science. Pas du tout. Elle est contre certains usages, applications de la science par rapport à l'homme. Vous n'avez pas le droit de massacrer un embryon en disant, ça va permettre le progrès de la science. Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'homme pour le progrès de la science. Parce que ce n'est plus regarder l'homme dans sa dignité personnelle. C'est regarder l'homme comme un objet, c'est-à-dire comme une chose dont on se sert. Je n'ai pas le droit de me servir, voyez, de l'homme, de l'exploiter. À cause de cette dignité d'enfant de Dieu, d'image de Dieu. Donc, il faut bien comprendre ça, c'est très très important ça. Oui, il ne s'agit pas de faire une apologétique, il s'agit tout simplement de comprendre que la science vole à 5000 mètres de hauteur et que la foi, ça vient directement de Dieu. Alors évidemment, hein, évidemment, on peut très bien mal comprendre d'une façon trop matérielle, prendre matériellement tout ce qui est dans l'écriture, en oubliant qu'il y a un langage symbolique. Parce que quand on dit que Dieu a façonné le corps de l'homme, si vous le prenez matériellement, vous verriez les mains du Père, vous verrez Dieu qui façonne, hein, oui. C'est pas tout à fait comme ça, hein, parce que Dieu n'a pas de corps, donc il n'y a pas de main. La création est un acte contemplatif de la part de Dieu. C'est dans sa contemplation que Dieu crée. Dieu ne travaille pas. C'est pas un travail, la contemplation. Donc quand on dit que Dieu s'est reposé après la création, comme ça avait été un très grand effort pour Dieu, et qu'il avait besoin du sabbat pour se reposer, ben, c'est un langage symbolique, vous comprenez. C'est le repos de Dieu pour que nous comprenions l'exigence du sabbat, l'exigence du repos. Donc il y a un langage symbolique, il faut le comprendre. Il y a un symbolisme divin qui exprime une réalité qu'il faut essayer de préciser. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Pour saint Thomas, on est convaincu. Je crois que parmi les théologiens, c'est celui qui l'affirme avec le plus de force. Parce que parmi les théologiens, c'est quand même celui qui a été le plus loin dans la recherche philosophique. Ça, je crois que là, saint Thomas est imbattable. C'est pour ça que quand j'entends critiquer saint Thomas, je leur dis, est-ce que vous avez la même foi que saint Thomas ? Est-ce que vous avez une intelligence aussi pénétrante que celle de saint Thomas ? Alors là, ils n'osent rien dire. Puis troisièmement, je dis, est-ce que vous avez lu saint Thomas ? Et alors s'ils me disent oui, je commence à leur poser quelques cols. J'ai dit ça l'autre jour à quelqu'un qui était du côté très fort de Mgr Lefebvre et qui se disait fidèle à saint Thomas. Alors il dit, ah pardon, je suis plus fidèle à saint Thomas que vous. Objectivement. Ah non, quand même, saint Thomas serait de son temps, il ne serait pas d'accord, il serait avec Mgr Lefebvre. Du pas du tout. Je suis beaucoup plus fidèle à saint Thomas que vous. La preuve, c'est que saint Thomas s'est posé la question, est-ce que le pape a le droit de modifier la liturgie ? Il dit oui. Alors vous pouvez dire que vous ne l'aimez pas, ça c'est autre chose. C'est très différent. Vous pouvez dire que vous aimiez beaucoup mieux l'ancienne liturgie. C'est une question de goût. Je comprends ça. C'est autre chose. C'est une question de foi. Quand on ne veut plus obéir au pape, c'est une question de foi. Vous voyez, saint Thomas est d'une profondeur au point de vue métaphysique qui, je crois, est unique. C'est du reste pour ça que l'Église dit que c'est le docteur commun. Parce que c'est le docteur qui, au plan philosophique, donc par rapport aux hommes, peut enseigner tous les hommes. Vous voyez, un docteur qui est très grand dans sa foi, mais pas très grand dans son intelligence, ne peut pas être docteur in communi, ne peut pas être docteur commun. Il est docteur commun parce qu'il peut parler à tous les hommes. C'est très beau, tu vois. C'est celui qui a cette universalité de la philosophie. Il parle le langage des hommes. Évidemment, un langage philosophique, un langage métaphysique, qui est difficile à comprendre pour nous, mais on fait faire l'effort de le comprendre, puis après, on le communique aux autres, tant bien que mal, comme on peut. Eh bien, saint Thomas, en étudiant Aristote, a vu qu'Aristote distinguait substance et relation. Pour Aristote, enfin en grec, ousia, il ne faut pas l'oublier. Alors écrivez-le si vous voulez. Ousia, rigueur, traduit ça étance quand il est enseigné en Sorbonne. J'aime pas beaucoup, d'abord parce que c'est pas un mot français. J'aime mieux laisser ousia si on n'arrive pas à le traduire. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir ce que c'est qu'ousia. Je crois que le mot ousia a pénétré dans la philosophie grecque avec Platon. Avant Platon, on parlait uniquement de la nature et pas de la substance. Et dans Platon, dans le Cratyle, dans Platon, Platon exprime à sa manière l'étymologie de ousia, ousia, qu'on a traduit en latin substantia et en français substance. Je vais vous montrer comment Platon va dire que ousia, pour lui, c'est estia. C'est très curieux. C'est pas tout à fait ça, vous savez rien. La manière platonicienne. Estia, c'est la déesse qui demeure dans la maison. C'est très joli. Oui, on est tout proche du mythe. Elle a dit Ousia, mais c'est ce qui demeure dans un être. Votre substance, c'est ce qui demeure en vous. Vos accidents peuvent passer. Vous pouvez perdre vos cheveux. Vous pouvez perdre vos dents. Ce n'est pas votre substance. Celui qui pleure parce qu'il a perdu une dent. Ben non, vous restez le même. On vous aime autant si vous manquez une dent. C'est pas la dent qui vous permet de vous aimer. Et même les cheveux. Quand on aime quelqu'un, on peut mettre une perruque après tout. Et puis les dents, c'est la même chose. C'est votre ousia, votre substance, on ne peut pas la changer. Ah non. Inchangeable. Très curieux, l'ousia. La déesse qui demeure. Votre ousia, c'est votre âme. Mais c'est aussi votre corps. C'est les deux. C'est votre âme, votre corps. C'est ce composé tout à fait particulier qui est votre âme, votre corps, plus votre intelligence. Ah, plus votre intelligence. Oui et non. L'intelligence, c'est quand même une qualité qui émane de l'âme, qui provient de l'âme. Donc, ce n'est pas directement votre substance. Mais la substance est source de l'intelligence et source de la volonté. La substance, c'est ce qui est premier en nous dans l'ordre de l'être et de notre vie humaine. C'est donc quelque chose de très radical. Et c'est pour ça qu'on l'a traduit substantia, substance, hypostasis, ce qui se tient en dessous, ce qui supporte le reste, les fondations. Mais attention, ce sont des fondations qui sont une source. Il faut mettre les deux. C'est une fondation et c'est une source. Parce que si on ne regarde que les fondations, substare, ce qui se tient en dessous, on traduira par sujet. C'est ce qu'a fait la scolastique décadente. Elle a traduit ousia par sujet. Alors que il faut le traduire peut-être par la source et la racine de tout. Ce qui est à la racine de tout votre être, c'est votre substance. Donc pour saint Thomas, c'est très important la substance. À la suite d'Aristote. Et la relation, au contraire, qu'est-ce que c'est que la relation? La relation, pour Aristote, c'est l'être le plus débile. C'est l'être le plus débile. Vous comprenez très bien. Vous êtes assis, votre voisine est assise, entre vous deux, il y a une similitude, vous êtes assis. Vous pesez 110 kilos, votre voisine pèse 110 kilos, vous êtes semblable dans le poids, et même égal, pesez le même poids. Vous voyez, la similitude et l'égalité, ce sont des relations. Des relations dans l'ordre de la qualité, c'est la similitude. L'égalité dans l'ordre de la quantité. Égalité, fraternité, hein, on connaît ça. Vous voyez, alors tous les Français ont le même poids. Ils sont égaux. L'égalité, c'est dans la quantité. C'est dans le langage précis. Ça que c'est de la futaise, l'égalité, vous comprenez. Ça n'existe pas. La fraternité, oui, ça peut exister, mais pas l'égalité. Impossible. Il faudrait se poser tous les jours, tous les ans, à la mairie, pour voir si ils ont tous le même poids. Ceux qui sont nés en même, la même année, vous comprenez, parce que autrement, ce sera un petit peu difficile, mais au moins la même année, l'égalité au point de vue des années. Non, l'égalité, c'est l'unité dans la quantité, dans un sens précis. Ce sont des relations, ça. Or, je pèse 110 kilos et mon voisin 110 kilos. Et puis, il meurt. La relation d'égalité disparaît. Et moi, je ne suis pas changé. Je continue de peser 110 kilos. La relation de similitude. Nous avons la même intelligence entre amis. C'est une relation de similitude ou une relation de complémentarité. On s'aime parce qu'on se ressemble. On a les mêmes goûts. On court de la même vitesse. Alors on s'aime beaucoup. On joue à peu près de la même façon au foot. Alors on s'aime beaucoup. C'est vrai, il y a toute espèce d'amitié. Il y a les amitiés de sportifs. Il y a les amitiés de voyageurs. Alors, relation de similitude ou relation de complémentarité. Oh, je t'aime parce que tu es totalement différent de moi. Alors je ne peux pas avoir de jalousie en voyant. C'est curieux, mais ça existe, c'est ce genre d'amitié. J'ai rencontré une fois apostoliquement, c'était tout près de Figeac, petite maison merveilleuse du XVIe siècle, petit village là-bas qui est entièrement classé, et au milieu, une très belle maison. Je m'approchais, et les gens étaient là sur le pas de la porte, très gentils, m'invitant à entrer. Genre de très belle statue de la Vierge, un petit bouquet, tout frais, donc c'était mis du matin. Puis qu'est-ce que je vois? Des clés en quantité. Ça m'intéresse, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un musée de clés. Alors ils me racontent leur histoire. Ils avaient tous les deux travaillé au chemin de fer. Il avait une passion pour les clés. Puis il rencontre une autre fille qui a des passions pour une clé. Ils se sont mariés par amour pour les clés. Similitude, vous voyez ? Ça va loin, la similitude. On a ce désir d'être collectionneur de clés. Alors, c'était merveilleux, parce qu'il y avait le patrimoine de l'un et le patrimoine de l'autre se doublaient. Ils ont construit une maison pour leurs clés. Et c'est authentique, ça. Ça fait comprendre ce que c'est que la similitude. Vous voyez, c'est quelque chose de très fort. Des collectionneurs de timbres. Et ainsi de suite. Prenez tous les collectionneurs. La similitude ou la complémentarité. Bon, c'est une relation. L'amitié est une relation. C'est très fort, l'amitié. C'est une relation. Alors, voyez, l'un meurt. La relation disparaît. Et on n'est pas changé. C'est pour ça que certains disent que la relation, c'est un être de raison. C'est l'intelligence qui fait la relation. Pour Aristote, non. La relation est quelque chose de réel. C'est pas parce que l'autre disparaît que la relation n'est pas quelque chose de réel. Mais il y a des relations de raison. Il y a des relations de raison. C'est très curieux. C'est la seule forme, parce que c'est une certaine forme, la relation. Ça implique une certaine détermination, la similitude. C'est la seule forme qui peut être réelle et qui peut être de raison. Il y a des relations de raison. La relation de raison, c'est l'universel. L'universel est une relation de raison. Animal est un terme universel. il s'applique à hippopotame, il s'applique à homme, il s'applique à chien, il s'applique à cheval, il s'applique à chat, animal. Vous voyez, il y a un terme qui s'applique à une multitude, donc qui est en relation à une multitude. L'universel, c'est une relation de raison. L'intelligence est capable de former des relations qui sont des relations de raison quand elles sont fondées sur la connaissance. L'intelligence aussi peut aider à réaliser des relations réelles. Je vois telle personne et je vois telle autre personne, je me dis, oh, comme ces personnes pourraient s'aimer, il y a une telle similitude. Alors on les fait rencontrer, vous voyez, mais là, c'est occasionnel. La relation est réelle, parce qu'elle a un fondement réel. Qu'est-ce qui fonde l'amitié? C'est la mise en commun. La koinonia, très difficile à traduire, la mise en commun. Une amitié est a son caractère propre, spécifique, par la mise en commun. Vous voyez, on voit très bien. Nous sommes amateurs, collectionneurs de clés. Quelle sera notre amitié? On va fourrer toutes les clés. D'un côté comme... Ça fera le flux et le reflux. Ça fera un grand collectionneur de clés et un ménage en plus. C'est quand même assez particulier, mais ça montre ce que c'est que la relation. Il faut réfléchir sur des choses comme ça. C'est idiot et ça fait réfléchir sur quelque chose de très sérieux. Alors, la relation, c'est donc une forme extrêmement débile qui est purement un regard vers l'autre. Pour qu'il y ait relation, il faut être deux. Tellement cet être est débile. Il s'appuie sur deux. Il regarde vers l'autre. Et en même temps, il s'enracine dans le sujet, l'ami. La réalité semblable à l'autre. Il s'enracine dans la substance, dans la réalité existante. Donc, la relation a cet aspect particulier qu'elle s'enracine dans la substance et elle est tournée vers. Toute relation, c'est un regard vers, ad. En latin, ça se dit très bien. En français, ça se dit moins bien, vers. Et en grec, pros. C'est vers, vers. Et ce regard s'enracine dans la substance grâce au fondement. J'aime les clés. Tu aimes les clés? Très bien, on va être des amis, puisque tous les deux, nous aimons les clés. Et alors, on pourra se regarder comme amateurs de clés. Vous voyez? Et on sait qu'on se comprendra, puisqu'il y aura le fondement commun, cette mise en commun. La mise en commun de ceux qui vont au pèlerinage de Compostelle. Lecture. Réfléchissez là-dessus. Et réfléchissez sur la mise en commun. Parce que tous ont la même relation. Ils sont des pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle. Vous voyez la mise en commun. C'est assez varié, du reste. Qu'est-ce que c'est que d'être pèlerin pour Compostelle? C'est ce fondement que vous découvrez. Les uns qui gardent un peu d'argent pour faire ce voyage. Les uns qui ont péché gravement en allant auprès du très grand Saint-Jacques. Il nous pardonnera. Donc on va pour se libérer de sa culpabilité. Maintenant on va chez un psychanalyste. Tandis que là, on faisait le pèlerinage à Compostelle pour se libérer de cette culpabilité qu'on portait. Alors on promettait un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. C'est très très joli ça, vous voyez. Et on essaie par là de comprendre qu'est-ce que c'est que cette relation de tous les pèlerins de Compostelle. Ils ont quelque chose qui les unit. Ils ont une relation à Saint-Jacques de Compostelle. Le fondement. La relation, ça joue un rôle très très important dans la vie. Pensez à toutes vos relations mondaines, utiles, parce qu'il y a quelquefois l'utile passe avant le mondain, surtout quand on est un peu dans la dèche. Alors à ce moment-là, l'utile passe avant le mondain, vous voyez. Et le Seigneur fait ça pour nous mettre devant une réalité plus profonde. Le mondain est artificiel. L'utile ne l'est pas. Pas du tout. Des relations de joie. Mais toutes les relations, faites votre carte ce soir, votre carte d'identité, avec en dessous toutes vos relations. Je suis l'ami d'un tel, je suis l'ami d'un tel, je suis l'ami d'un tel. Vous voyez, et c'est vrai, on vit, on verra, n'est-ce pas, si la relation fait partie de la personne. Est-ce que vous êtes une grosse personnalité? Parce que vous avez des quantités de relations. Quelquefois, il y a des personnes qui ont toutes petites personnalités, mais qui ont d'immenses relations. Pourquoi? Il y a une grosse fortune par derrière. Il y a de l'or en masse. Alors, ça fait des relations. Et c'est vrai, quand vous scrutez un tout petit peu, je me dis, comment se fait-il que cette personne ait tant de relations? Elle n'est pourtant pas très intelligente. Au bout de 2 minutes, on a fait le tour. Mais vraiment, c'est non. Par le point de vue, pas très belle. Oh non, non. Elle essaie de jouer à la séduction, mais ça ne marche pas. D'abord, elle est trop âgée. Et pourtant, elle continue d'avoir des tas de relations. Et vous creusez, vous apercevez, oui, pas le fondement. Et ça tient, la route. Parce que ça dure. C'est très curieux de voir, est-ce que les relations font partie de la personne? Posez-vous la question, oui, je pose exprès quelques questions comme ça. Parce que c'est important. Eh bien, saint Thomas étudie la relation. Il l'étudie très près. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, en théologien, si je veux donner une certaine voie d'accès intelligible à ce grand mystère, une unité absolument simple, Dieu est substance, la substance première, l'acte pur, découvrir intellectuellement la brèche qui permettra, dans cette simplicité, de ne pas mettre de division et d'introduire une distinction. Vous voyez, posez le problème comme ça et cherchez-le. Cherchez la brèche qui permet d'introduire dans la simplicité absolue de Dieu aucune division et pourtant une distinction. Eh bien, il n'y a que la relation. La relation seule permet ça. Il fallait le trouver. Il faut qu'on la trouve, mais c'est évident. Il fallait le trouver. Il fallait trouver qu'on peut purifier la relation d'une manière telle qu'on ne regarde plus que le regard. Le âne, le ver, le pros, on ne regarde plus que ça. Le in disparaît. On peut. Et ne regarder que le regard, le pur regard, qui existe dans la relation des deux. Le regard mutuel. Je te regarde, tu me regardes. Il y a une relation. Deux yeux qui rencontrent deux autres yeux. un regard. Le fondement, on n'en parle pas. On peut donc attribuer à Dieu l'âme pure. En disant que la relation à l'état tout à fait pur, elle reste réelle, mais à l'état tout à fait pur, distingue et ne divise pas. À cause de la précarité de la relation. La relation ne divise pas. Et elle introduit dans la simplicité absolue de Dieu une relation. Le Père est totalement relatif au Fils comme Père. Et le Fils est totalement relatif au Père comme Fils. Et pourtant, le Père et le Fils ne sont qu'un en tant que Dieu. Ça, c'est quand même merveilleux d'avoir découvert ce point de vue-là, d'avoir découvert qu'il y a en Dieu cette unité absolue, substantielle, et comme la révélation parle de procession. Et égogénuité. Moi, je suis né, je suis engendré de toi. Et dans Saint Jean, on parle de procession. Le Verbe procède du principe. Il procède du Père. Le Fils vient du Père. Il procède du Père. Donc, on parle de fécondité en Dieu. C'est ça le mystère de la très sainte Trinité. Il y a une fécondité. Cette fécondité, elle est Dieu. Mais il y a un fruit à cette fécondité. Et le fruit de cette fécondité, c'est le Fils. Totalement relatif au Père. Je ne comprends pas, hein, mais je vois que ce n'est pas impossible d'introduire dans l'infinie simplicité de Dieu une distinction. Une distinction substantielle, subsistante, puisque tout ce qui est en Dieu est Dieu, et donc subsiste. Ce n'est plus une relation accidentelle, c'est une relation subsistante, parce que cette relation est réellement en Dieu. Oui, c'est pas mon intelligence qui fabrique ça. Ce serait une relation de raison. Ça, c'est les modernistes qui disent ça. Et les modernistes reviennent aujourd'hui. Vous savez bien. Les modernistes disaient, oh, c'est uniquement un langage. On parle de la Trinité, mais non, non, il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a trois perspectives sur Dieu. On projette sur Dieu la famille. Vous savez. Alors on dit le Père, la Mère, l'Enfant. On a compris la très sainte Trinité. On projette sur Dieu le Père, la Mère et l'Enfant. Ça, alors vous voyez, et en Dieu il n'y a rien de tout ça. C'est uniquement l'intelligence qui fait ça. Ça c'est une projection psychologique. C'est pas ça du tout. Quand le théologien essaie de contempler le mystère de la très sainte Trinité, il sait très bien que dans une famille, le père et la mère sont deux personnes distinctes. Et l'enfant aussi. Donc il y a trois personnes. Mais trois personnes qui ne sont pas une seule nature, une seule réalité. Donc c'est tout à fait différent. Qu'il puisse y avoir des analogies lointaines, métaphoriques, très bien. Mais ce n'est pas ça qui va me donner un regard contemplatif sur la très sainte Trinité. Regardez indéfiniment un père, un jeune foyer. Un père, une mère, un enfant. Mais vous ne trouverez pas la très sainte Trinité. Non. Il faut un regard bien plus purifié. On purifie la relation, on l'attribue à Dieu. Pourquoi ? Parce que l'Écriture nous dit qu'il y a le Père et le Fils, et qu'ils sont un. Le Père et moi, nous sommes un. c'est le Père, et c'est moi, le Fils bien-aimé. Et c'est l'Esprit, le Paraclet. Ils sont trois et un. Comment introduire ? Par le mystère, par comme fondement. Le fondement de cette relation, c'est les processions. Le mystère de la fécondité en Dieu. Une double fécondité. Fécondité à l'égard du Fils, fécondité à l'égard de l'Esprit Saint. Et cette double fécondité, ces deux processions, me permettent de saisir la relation du Fils à l'égard du Père et la relation du Père à l'égard du Fils. La relation de l'Esprit Saint à l'égard du Père et à l'égard du Fils. Faut essayer de comprendre ça. Et on dira tout de suite que le Père et le Fils ne sont qu'un quand ils sont source de la procession d'Esprit-Saint. Donc en réalité, l'Esprit-Saint est relatif au Père et au Fils. Et le Père et le Fils dans l'unité. Je voulais revenir là-dessus pour que vous voyiez mieux. Et vous voyez qu'il y a là une finesse. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. Une finesse du théologien contemplatif qui veut dire quelque chose de vrai sur Dieu. Saint Augustin nous dit que c'est ce qu'il y a de plus difficile de parler de la très sainte Trinité. Mais il nous dit en même temps qu'il faut tout le temps en parler. Et saint Thomas dit la même chose. C'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas la regarder, puisque c'est la source de tout. Tout provient du mystère de la très sainte Trinité, dans son unité. Je vais maintenant regarder avec vous le mystère du Christ. Tout ce que j'ai dit là vous aidera à mieux comprendre le mystère du Christ. Donc le mystère du Christ, tel que saint Thomas nous le donne. L'Église affirme que dans le mystère de l'incarnation, il y a deux natures. Deux natures et une personne. Nature divine, nature divine. Très très important pour nous, surtout aujourd'hui au point de vue théologique. On parle beaucoup moins de la très sainte Trinité, on n'en parle plus beaucoup hélas, mais on parle énormément du Christ, la christologie tout le temps. C'est normal d'une certaine manière, parce que le Christ est notre sauveur, il est notre sauveur. Alors puisqu'il est notre sauveur, il est plus proche. C'est par lui que je pénètre dans le mystère de la très sainte Trinité. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et ceux auxquels le Fils l'aura révélé. Donc c'est par Jésus que je connais le Père. Le mystère de l'incarnation, c'est le Verbe de Dieu qui est la deuxième personne. Qui est le Fils, qui assume la nature humaine, formée en Marie. La nature humaine implique l'âme. Le Christ a une âme humaine, et puis un corps. C'est ça la nature humaine. L'âme du Christ est créé directement par Dieu. Saint-Esprit. L'âme humaine du Christ est créée directement par Dieu dans la cellule initiale du corps du Christ. Le corps du Christ a été formé en Marie sous l'action de l'Esprit-Saint. Il s'agit d'une maternité virginale sous l'action de l'Esprit-Saint. L'Église ne précise pas plus, hein. C'est pour ça que c'est une maternité divine, elle se termine au Verbe qui assume la nature humaine, mais c'est une maternité humaine, mais miraculeuse. Donc plus parfaite que n'importe quelle autre maternité. C'est saint Augustin qui dit ça. Quand Dieu intervient directement, comme pour Cana, le second vin est meilleur que le premier. Et saint Augustin n'hésite pas à faire le parallèle pour la maternité divine de Marie. Et donc cette maternité est plus parfaite que toutes les autres maternités. Et c'est pour ça qu'au point de vue atavisme, c'est quand même très important, ça c'est Albert le Grand qui fait cette petite remarque, au point de vue atavisme, l'enfant Jésus ne ressemble qu'à sa mère. Il y a un atavisme parfait. Parce que Marie est immaculée. Donc, il n'y a aucune déformation en Marie. Aucun déséquilibre latent. Elle est immaculée. Dans son âme et dans son corps. Donc, elle est la femme parfaite. Et sous l'action de l'Esprit-Saint, il y a une fécondation infiniment mystérieuse. Une fécondation qui met en colère le démon. Il faut se demander jusqu'où, vous voyez, dans les fécondations artificielles, s'il n'y a pas une certaine reprise et rage. Je dis ça avec des points d'interrogation et des points d'exclamation. Fécondation divine en Marie. L'âme, le corps du Christ, donc la fécondation, se réalise en Marie par l'Esprit-Saint. Et dans ce moment de la fécondation, l'âme du Christ est créée pour informer ce premier moment de la formation du corps du Christ. Et l'âme du Christ subsiste dans le Verbe de Dieu. C'est une âme qui est divine parce qu'elle subsiste dans le Verbe. Oui, je vais avec vous analyser tous ces moments, parce que c'est très beau, pour essayer de contempler ce mystère. Nous avons donc le Verbe, l'âme humaine, créée, elle est créée par Dieu, elle est comme notre âme, une âme immortelle, spirituelle, elle est tout de suite unie au Verbe. Cette âme informe le corps de Jésus. Ce corps en Marie, donc il provient de Marie, sous l'action de l'Esprit-Saint. Vous voyez toutes les diverses causalités qui interviennent. Le Verbe assume c'est l'expression assumer. C'est une très belle expression, du reste. Assume l'âme humaine du Christ, qui est créée dans le Verbe, puisque l'âme humaine du Christ subsiste dans le Verbe. C'est merveilleux, ça. C'est étonnant. Elle est créée dans le Verbe. Et immédiatement, elle informe le corps. Le corps à l'état embryonnaire, à l'état du premier moment de la conception, ce corps qui est en Marie, in sino mariée, qui provient d'elle, puisque Marie est la mère, de Marie-Mère, sous l'action de l'Esprit-Saint. Vous avez donc un, deux, trois, quatre. Si vous voulez vraiment analyser ces différents moments, dans toute procréation, bon, il y a la fécondation qui se fait dans la mère. Et Dieu crée l'âme humaine qui informe l'embryon. À quel moment ? Alors, c'est là où l'Église ne précise pas. Philosophiquement, on peut dire, étant donné les dernières découvertes biologiques, que dès le premier moment de la conception, il y a le chiffre biologique de l'individu. Votre chiffre biologique est le même maintenant que vous avez eu au moment de la conception. Parce que tous avons été conçus. Nous n'avons plus du tout conscience de ça. Mais c'est pour ça qu'il y a peut-être eu là un inconscient extrêmement fort. Il y a beaucoup, et ce qui semble le plus raisonnable aujourd'hui, d'affirmer que l'âme humaine est créée dès le premier instant de la conception. Il semble bien. Parce que je ne vois pas très bien, métaphysiquement parlant, comment l'âme peut être créée quand déjà l'embryon est déjà assez développé. Ça ferait un certain choc. Alors là, je vous affirme, ça ferait un choc assez fort. Je sais bien, c'est créé de l'intérieur. Alors Dieu a une douceur infinie quand il agit. C'est pas chirurgicalement, c'est créé de l'intérieur. Dieu crée l'âme de l'intérieur. Ce sont nos schèmes qui sont extérieurs. Mais autrement, Dieu crée de l'intérieur. Est-ce qu'au Moyen-Âge, on disait que c'était au sixième mois que l'âme était créée à cause du tressaillement du petit Jean-Baptiste? Le petit Jean-Baptiste a tressailli de joie dans le sein de sa mère. Quand Marie est venue saluer la vieille cousine Élisabeth, qui portait son petit enfant. Et l'enfant a tressailli. Donc, il avait une âme. Et donc, au sixième mois, il y avait une âme. Et c'est ce que les théologiens du Moyen-Âge affirmaient. Mais on connaît beaucoup plus qu'au Moyen-Âge l'embryon et le développement de l'embryon. Et donc, on voit aujourd'hui que le chiffre biologique du nouvel être est donné dès le moment de la conception. Ça, qu'il y a beaucoup de chances que l'âme humaine est créée dès ce moment. Du reste, on comprend beaucoup mieux, puisque la procréation, c'est une activité sacrée, au sens très fort. Vous voyez, c'est plus que moral, c'est sacré, parce que C'est une coopération de Dieu avec l'homme et la femme. C'est une coopération de Dieu. Dieu coopère. Ce n'est pas Dieu qui prend l'initiative. Ce sont les époux qui prennent l'initiative. Et Dieu suit. C'est ça qui est extraordinaire. Si Dieu prenne l'initiative, il n'y aurait pas de fécondation artificielle. Mais comme Dieu ne prend pas l'initiative, il laisse à l'homme avoir l'initiative. Et l'homme peut très bien ne pas comprendre que c'est très très grand de voir comment Dieu est le Dieu des époux, de l'homme et de la femme. Quand il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous pouvons aller plus loin. Il est le Dieu des parents, puisqu'il coopère avec eux pour l'enfant. En toute réalité, il est lié à eux. Il y a une alliance fondamentale de Dieu avec l'homme par la procréation et dans la procréation. Une alliance fondamentale. C'est pour ça que c'est de l'ordre du sacré. Tout ce qui touche immédiatement Dieu est du sacré. Or, Dieu intervient directement. La toute-puissance de Dieu intervient. Et Dieu laisse à l'homme et à la femme, aux époux, d'avoir l'initiative. C'est quelque chose de très grand. C'est pour ça que je crois que dès qu'on touche à cette alliance fondamentale et qu'on veut la modifier, on touche à quelque chose de tout à fait fondamental. C'est des tremblements apocalyptiques, je crois. Parce que ça touche quelque chose de fondamental. Mais aujourd'hui, on touche à deux aspects tout à fait fondamentaux, la procréation et le mystère de la parole de Dieu, avec les herméneutiques modernes. La parole de Dieu est une semence. C'est pas moi qui fais la comparaison. C'est dit dans l'Écriture. Et c'est Jésus qui l'a dit. La parole de Dieu est une semence. Une semence par rapport à notre acte de foi. Et notre acte de foi fait de nous un enfant de Dieu. Quand vous faites un acte de foi, vous devenez un enfant de Dieu. Vous avez un nouveau visage. Vous êtes enfant. Et c'est la parole de Dieu qui est la semence divine. De sorte que je peux faire le parallèle. Procréation, parole de Dieu. Or, aujourd'hui,